talmudique. Robert Schumann a 28 ans lorsqu'il compose les scènes d'enfants pour le piano. C'est l'opus numéro 15 dont nous sommes en train d'entendre, Rêverie, la 7e pièce de cet opus, jouée par Martha Hagerichte. Robert Schumann écrit « Ces 13 petites pièces ont été conçues par un grand enfant comme souvenir pour des personnes qui ont grandi. » C'est la même intention qui anime la dédicace que fait Saint-Exupéry à Léon Werth, en exergue du Petit Prince. À Léon Werth, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Werth quand il était petit garçon. Et j'aime à me souvenir de ce beau poème de Louis-René Desforêts. Que jamais la voix de l'enfant en lui ne se taise, qu'elle tombe comme un don du ciel, offrant aux mots desséchés l'éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute puissante sauvagerie. Il y a ainsi chez les humains une forte et inspirante persistance de l'enfance dont les artistes, souvent, en sont les dépositaires et en trouvent la plus juste expression. Persistance de l'enfance, mais sans déni des différentes étapes de la vie qui nous construisent chacune à sa façon. Ainsi, la Torah nous raconte que la matriarche Sarah décéda à 127 ans. Mais le verset le dit d'une façon bien étonnante en soulignant qu'elle rendit l'âme à 100 ans et 20 ans et 7 ans. Commentant cette singulière formulation, le rabbin Samson Raphaël Hirsch explique que Sarah vécut pleinement son enfance, fut une jeune femme à la vingtaine et une adulte à l'âge mûr. Grandir, c'est être en harmonie avec le temps de son développement, à la fois intellectuel, spirituel et social. Devenir adulte ne veut pas dire rejeter les territoires de l'enfance qui nous habitent et qui nous habiteront toujours, qui sont une partie essentielle de nous-mêmes, de notre créativité, du plaisir du jeu, de la recherche par exemple, mais c'est les assumer différemment avec d'autres responsabilités et d'autres engagements. Sans doute est-ce le sens de la célèbre formule de Rabbi Nachman de Bratslav « Il est interdit d'être vieux, assur liyot zaken » que Maurice Blanchot et Jacques Derrida commentèrent chacun à sa façon, mais dont le sens premier est celui de l'interdit de renoncer à se renouveler et de renoncer à jouer. Mais comment devenir adulte sans oublier l'enfant? Comment être enfant sans déjà jouer à l'adulte? Comment assumer sa juste place dans le temps des générations? Voilà des questions importantes. Et pour en parler et tenter d'approfondir le questionnement, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Karen Alali et Jérémy Haddad à l'occasion de la parution du nouveau numéro de la revue L'Éclaireur intitulé « Les Chaïm pour la vie » et sous-titré « Les âges de la vie ». Une revue qui se révèle au fil des mois et maintenant des ans, un rendez-vous important, joyeux et ludique pour la pensée et la rencontre entre chercheurs et les jeunes générations. Keren Alali, vous êtes directrice du mouvement scout des éclaireuses et éclaireurs israéliques de France, les EI, et Jérémy Haddad, vous êtes le directeur de publication de cette très belle revue. Les auditeurs de Talmudique vous connaissent bien l'un et l'autre, puisque nous avons eu le plaisir déjà de vous recevoir plusieurs fois à l'occasion des numéros précédents. Pourquoi le choix de ce thème aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette période à la fois de l'année, mais aussi de l'évolution de notre société? Jérémy Haddad.
Oui, bonjour Marc-Alain Wakenin. Par période de l'année, j'imagine que vous faites allusion à cette période de réforme des retraites, éventuellement des premières épreuves du nouveau baccalauréat. Alors ça, c'est une totale coïncidence évidemment. Mais toutes les questions qui sont sous-jacentes et les tendances qui sont sous-jacentes à ces actualités nous semblent des tendances de fond. Il y en a plusieurs. D'abord, nous vivons de plus en plus longtemps et en bonne santé. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a un phénomène que les sociologues ont appelé l'adolescence, c'est-à-dire le moment où des jeunes adultes de 25 ou même plus âgés sont encore dans un monde adolescent et ont du mal à passer à l'âge adulte. Et puis on a une vie qui devient de moins en moins continue, qui devient peut-être de plus en plus hachée, avec plusieurs vies. Et cet état de fait, qui est un peu nouveau, on a voulu l'interroger avec les sources de la tradition juive et tout ce que les maîtres de cette tradition ont pu penser. Alors, on a notamment un exemple, hein, c'est la fameuse application qui a fait fureur il y a quelques mois, qui s'appelle FaceApp, qui est une application sur téléphone portable qui permet de se vieillir. Et on s'est dit qu'elle donnait lieu à une sorte de double réaction. D'une part, on était très curieux de voir ce que ça donnait notre visage un peu plus tard. Et en même temps, on était aussi très heureux de voir qu'il y avait une forme de continuité dans ce visage-là. Et ça, pour nous, ça a été le point de départ, parce que ça fait référence à une expression traditionnelle qui est « chai vekayam ». Chai vekayam, qui veut dire « vivant et existant ». Alors comment est-ce qu'on explique ce pléonasme, puisque la tradition juive refuse en général le pléonasme? C'est que chai, c'est plutôt vivant au sens de l'évolution. C'est quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui évolue de façon systématique. Et kayam, c'est quelqu'un qui est, on va dire, fixe, qui est existant et qui fait référence plutôt à la continuité des choses. Et la vie étant justement cette conjonction de l'évolution, de la continuité et en même temps de la fixité des choses, on a voulu en prendre ce point de départ pour travailler justement sur les âges de la vie.
C'est d'ailleurs une dialectique que l'on retrouve chez Ricoeur. Il parle de la mêmeté et de l'ipséité. La mêmeté, c'est la partie de la personne qui reste identique à elle-même, et l'ipséité, c'est celle qui se renouvelle. Et l'ensemble fonde ce qu'il a appelé l'identité narrative, ce qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire la manière dont on se raconte, justement à la fois dans cette persistance et dans ce renouvellement. Alors les âges de la vie, le titre de ce numéro, c'est « Les Chaïm » pour la vie, avec ce sous-titre « Les âges de la vie ». C'est particulièrement intéressant en hébreu parce que l'âge se dit « Gil »,« Gimel Yod Lamed », un mot qui signifie au moins deux choses, l'âge et la joie. Comment interprétez-vous cette magnifique amphibologie? Et d'autre part, je note que si on lit lettre à lettre, ce mot signifie sevrage, c'est la lettre guimel, main, iode, et étude. Karen Alali.
Alors, je vais déjà réagir sur le lettre à lettre. Sevrage, main, étude. On entend dans ces trois mots une forme d'évolution. Sevrage, c'est le bébé qui naît, qui doit se séparer de sa maman. Main, c'est l'action des parents qui vont lui donner la main pour l'accompagner vers l'étude, l'autonomie, la prise de responsabilité et de la confrontation au texte. Avec ce lamed qui, dans la calligraphie hébraïque, est une des seules lettres qui dépasse le quand on écrit en fait la lettre, elle dépasse le comme s'il fallait prendre de la distance en prenant de l'autonomie.
Donc je pense
que et de la hauteur, bien sûr. Donc je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre ce lettre à lettre. Ensuite, effectivement, vous signalez le fait qu'on peut traduire ce mot à la fois par l'âge et par la joie, comme si on imaginait qu'à chaque âge, on a nos propres joies, et puis plus tard, on verra qu'on n'a pas que des joies, mais pour bien spécifier que chaque tranche d'âge a des spécificités. C'est pas un cadre qui est enfermant, c'est juste un cadre qui nous permet de comprendre que chacun, avec ce qu'il est, à l'âge qu'il a, vit des choses différentes, et évolue de manière différente. Et la tradition, notamment dans Pirkei Avot, Maxime des Pères, nous explique très clairement à tel âge on fait ceci, à tel âge on fait cela, etc. Comme pour nous aider à comprendre que chaque personne a un mode d'évolution spécifique.
Alors, le dictionnaire Sander et Trenel nous apprend, vous savez que j'aime beaucoup consulter les dictionnaires qui sont mes meilleurs amis, nous apprend que la racine « gil », qui veut dire « l'âge », signifie à la fois une chose et une chose qui est peut-être l'opposé, c'est se réjouir, on vient d'en parler, mais ça signifie aussi craindre, avoir peur, trembler. Qu'est-ce que cela nous permet d'approfondir sur les questions de l'âge, Karen Alali?
Je poursuis sur l'idée, donc effectivement, du fait que chaque âge a ses propres sources de joie, mais aussi ses propres sources d'inquiétude. Et donc on disait juste à l'instant, en fait, est-ce que la joie c'est spécifique à l'enfance? Non. Est-ce que l'inquiétude c'est spécifique à l'adulte? Non plus. Et il y a une jolie interprétation comme ça d'Israël Salenter, rabbin bien connu, sur le fait qu'un enfant qui joue avec son bateau a beaucoup de peine au moment où son bateau tombe, se casse, etc. Et que l'adulte qui est en face ne comprend pas cette peine-là. Mais en fait, c'est la même peine que l'armateur qui va perdre son bateau. Parce que à l'échelle de l'enfant, faire tomber son bateau, le casser, ça a autant de poids et d'importance que pour l'adulte armateur ou autre profession qui perdrait un élément de sa flotte. Et je crois que là, on comprend qu'à un moment, il faut aussi réaliser que chacun a son niveau d'interprétation et de compréhension, et que donc, finalement, entre la joie, les tremblements ou les inquiétudes, la limite est assez poreuse.
Jérémy Haddad, décidément, cette racine est d'une richesse inouïe, car elle signifie aussi le dévoilement, le monticule, la vague et l'exil. Il y a comme un mouvement d'élévation, d'éloignement, un mouvement circulaire que l'on retrouve dans le mot galgal, qui signifie la roue. Et je pense à deux citations que Jacques Munier rappelait dans l'une de ses chroniques de 2017. Nietzsche d'abord, « Innocence et l'enfant ». Et un oubli et un recommencement, un jeu, une roue qui tourne d'elle-même. Et Walter Benjamin ensuite qui demande « Qu'est-ce qui attire l'enfant vers le carrousel ?» C'est l'expérience de l'éternel retour des choses. Sans doute, ces différents sens de la racine « gal » résonnent avec force aux oreilles des éducateurs que vous êtes, confrontés quotidiennement à des jeunes, à des adolescents, à des jeunes adultes et aussi à des adultes, Jérémy Haddad.
Oui, alors ce que vous venez de dire peut paraître un peu désespérant de prime abord, parce que ça voudrait dire qu'en réalité on fait jamais de progrès et on revient toujours quelque part au moment initial. Le mot éducation se dit chinour, et ce mot-là, quand on creuse un petit peu, il ne veut pas du tout dire éducation au sens où on va inculquer des valeurs, des connaissances, etc. Et c'est Rachi, c'est-à-dire le grand commentateur français, qui d'ailleurs le dit en français, avec ses gloses, avec son français champenois de l'époque du Moyen-Âge qui le dit. Il dit non, en fait, rinour, ça veut dire initier quelqu'un. Et il le dit en français, c'est initier quelqu'un, c'est le fait de revêtir une nouvelle fonction. Alors qu'est-ce que ça veut dire initier? C'est lui donner les conditions parfaites de son apprentissage. Mais pour que lui-même puisse procéder à cet apprentissage et lui-même puisse apprendre ce que nous-mêmes avons appris. Et c'est comme ça que je comprends ce renouvellement permanent et ce retour, et cet éternel retour. Et ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote que j'ai vécue qui m'a d'ailleurs beaucoup marqué. Quand j'ai parlé avec Ami Bouganim qui est un auteur, un écrivain qui a écrit des monographies sur Herzl, sur Leibovitch, sur Kafka, sur le Rav Soloveitchik. Et Ami Bouganim, qui était aussi un ancien EI et qui a beaucoup fait pour les EI à la fin des années 70 et au début des années 80. Et il me disait à quel point ce mouvement l'avait marqué, à quel point il était important pour l'engagement futur des jeunes générations. Et il me disait, c'est un mouvement extraordinaire, il y a juste un problème dans ce mouvement. Alors je lui dis, d'accord, lequel? Il me dit, c'est les anciens EI. Alors je lui dis, ah bon, mais pourquoi c'est les anciens EI? Et il me fait cette réponse extraordinaire, il me dit, parce qu'ils refusent que les jeunes se trompent. Parce qu'ils refusent que les jeunes se trompent. Ça veut dire, une fois qu'on a compris les choses, on a envie en fait d'expliquer aux autres ce qu'on a compris. Mais c'est pas comme ça que ça marche, l'éducation. L'éducation, c'est donner les conditions aux autres, de les mettre en situation, qu'ils vivent des échecs qui vont eux-mêmes les mettre en situation d'apprentissage et puis ensuite d'arriver à un niveau plus élevé. Et je crois que cette dimension d'éternel retour, elle passe par là, c'est-à-dire la capacité à mettre en situation d'apprentissage les jeunes et qui vont en faire une connaissance existentielle.
Thank you.
Vivaldi, les quatre saisons, Julia Fischer au violon. Le succès de cette œuvre de Vivaldi, en dehors de l'aspect virtuose, ne réside-t-il pas dans la dimension affective qu'elle porte, celle métaphorique des quatre âges de la vie, âge de la vie marqué par des frontières, des passages, et particulièrement des rites de passage que l'on retrouve dans de nombreuses sociétés tout aussi différentes les unes des autres, rites de passage que l'on retrouve dans le judaïsme, dans le rite de la bar mitzvah pour les garçons, bat mitzvah pour les filles, qui respectivement à 13 et 12 ans et demi fait entrer l'adolescent dans le monde des adultes par une cérémonie dont la préparation peut être fort longue et qui consiste à lire un passage de la Torah, la Kriyat HaTorah, et à composer un commentaire de cette lecture appelée Drasha. Quelle est la fonction de cette double prise de parole, lecture et commentaire public, que l'on retrouve de façon peut-être un peu différente, mais non sans lien, dans l'examen de français à la fin de la classe de première, Keren Halevi?
Alors, le rapport au texte, on a déjà eu l'occasion, notamment dans la revue numéro 2, de travailler sur cette question et de s'interroger. Comment, effectivement, au moment de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, se pose cette question de l'acceptation, en fait, de l'autorité du texte? Donc, effectivement, le jeune doit s'approprier le texte, apprendre à le lire, à le lire de manière tout à fait précise. Et au-delà de ça, et vous le disiez, il doit aussi faire une dracha, c'est-à-dire un commentaire de ce texte. Donc, en fait, à travers cet exercice, il doit aussi donc lire le texte, mais aussi l'interpréter et le faire sien. Donc c'est pas simplement une lecture passive, c'est une manière de se rendre acteur de la lecture de ce texte. Et bar mitzvah, c'est pas un mot en hébreu, bar c'est un mot en araméen qui peut être traduit par fils du commandement, mais qui a aussi un autre sens que le fils ou la fille du commandement, qui est en fait quelque chose autour de la distance qu'on peut prendre, le regard critique. En fait, comme pour dire que finalement, devenir un adulte et devenir responsable, ce n'est pas nécessairement s'inscrire dans la continuité, mais ça peut être aussi se mettre à distance et en rupture. Donc rien n'est joué d'avance, après il appartient à chacun de faire sien les commentaires et la manière dont le texte va lui parler et l'inspirer.
Rapport au texte, rapport partagé dans la confrontation avec d'autres, rencontre formatrice qui fait grandir, quels que soient les âges de la vie, et je pense particulièrement à la rubrique qui se trouve dans chaque numéro de votre revue, intitulée Chavruta, où des jeunes se retrouvent autour d'un ou plusieurs versets pour en discuter le sens, sans toujours nécessairement être obligés d'être d'accord. C'est la machloket, le questionnement dialogique au fondement même du Talmud. On n'est pas obligé d'être d'accord, comme Manitou et Castor Soucieux, c'est son totem, qui co-signait un article en 1938 et qui aussi reproduit à la fin de ce numéro de la revue.
Oui, je vous avoue qu'il y a beaucoup de lecteurs qui reviennent vers moi en me disant qu'une des premiers articles qu'ils regardent lors d'un nouveau numéro de l'Éclaireur, c'est justement ces textes qu'on reproduit, qui sont des textes des années 30, 40, 50, écrits par Manitou en général, et puis ici un texte co-écrit par Manitou et Castor. Alors il faut remettre un petit peu le contexte. À la fin des années 30, il y a plusieurs courants au sein du judaïsme, certains qui se font un petit peu la guerre, et il se trouve qu'aux EI, ils ont trouvé un endroit où tous peuvent vivre ensemble sans se taper dessus. Et Castor et Manitou sont deux juifs, mais très éloignés par leur origine. Castor est un israélite français, Manitou est un fils de rabbin algérien, et pourtant ils se retrouvent aux EI et ils trouvent quelque part une forme d'idéal dans ce mouvement-là. Ils co-signent une tribune dans laquelle ils disent « il y a plusieurs courants dans le judaïsme, mais il faut savoir que chacun a le droit d'être pour, mais que personne n'a le droit d'être contre ». Je trouve que cette phrase, elle est très forte, qu'elle permet justement ce creuset incroyable et que l'impératif pour eux, disent-ils, c'est qu'ils se retrouvent sur un même plan d'authenticité. Et ce plan d'authenticité, il se réalise effectivement par l'étude, qui va engager pour chacun sa subjectivité. Mais en engageant sa subjectivité, ils arriveront par la force des choses, à des conclusions probablement différentes. Mais néanmoins, ils seront équivalents sur un plan de l'authenticité parce qu'ils ont impliqué leur existence. Et ce qui le permet, c'est justement l'étude en commun.
Moi, j'assiste aux rubriques, enfin, à la manière dont les jeunes s'approprient le texte. C'est exceptionnel. Parce qu'en fait, ils interrogent toutes les bizarreries du texte. Ils comprennent que tout ça, et que tout fait sens. Et quelque part, ça leur donne, ils ressortent de ce moment d'étude avec les yeux qui brillent et se dire, en fait, peut-être que je ne sais pas grand chose en matière de Torah, mais ce texte-là m'a parlé et a évoqué quelque chose.
Et surtout, j'ai le droit de dire ma parole.
Exactement, et ma parole a du sens.
Et ma parole a du sens et du poids. Et ne peut-on pas voir aussi, dans cette lecture de la bar mitzvah, pour revenir au thème de ce rite d'initiation, une relation privilégiée au rythme des générations, puisque l'enfant qui quitte l'enfance pour entrer dans la communauté des adultes, pour monter à la Torah, le jour de la bar mitzvah à la synagogue, il y a cette expression. Au lieu de dire « il va lire dans la Torah », on dit « il va monter à la Torah », comme si la lecture était déjà élévation. Il est littéralement appelé par son nom, et le nom de son père et de sa mère, on dit « un tel », par exemple « Moshe », fils de Sarah et Abraham, est appelé à monter à la Torah, l'inscrivant ainsi dans la chaîne des générations. Identité narrative, j'en ai parlé tout à l'heure, qui se conjugue à une conscience de l'épaisseur de l'histoire, qui est une épaisseur ou une conscience transgénérationnelle. La bar mitzvah, c'est aussi un rite dans lequel est particulièrement visible l'évolution du rite juif, quels que soient les différents courants du judaïsme, car les filles et les femmes en général, pendant des siècles, ont été écartées du rite et de la liturgie, et là, elles retrouvent de manière engagée le chemin de la synagogue et de la maison d'études. Et cette parité, homme-femme, n'est-ce pas ce que les EI ont mis au centre de leur projet éducatif depuis maintenant presque un siècle?
Alors, il y a une conscience très forte, très intuitive et même très naturelle de Robert Gamzon, le créateur des EI, depuis 1923, sur le fait que ce soit les garçons ou les filles, ils pouvaient faire exactement les mêmes choses. En termes d'engagement, en termes d'accession aux responsabilités, en termes d'éducation, en termes d'approche du texte. Et ça, c'est clairement dans l'ADN des EI, et ça s'est matérialisé tout au long de son existence. Il faut bien noter que par rapport aux autres mouvements de scoutisme, les EI étaient très en avance, parce que dès 1923, les formations étaient réalisées en commun. Alors, il y avait probablement des visées matrimoniales derrière, mais en tout cas, c'était extrêmement fort. Et puis, pendant la guerre, évidemment, hein, on ne fait pas vraiment de distinction. Quand on a besoin de bras, de jambes bien câblées, on ne fait pas de distinction. L'école d'Orsay, qui est l'école des cadres, qui s'est créée juste après la guerre, elle a été aussi très novatrice en cela que l'étude des textes, elle était destinée à la fois aux garçons et aux filles. Et de ce point de vue-là, il n'y avait pas de différence, c'était très très nouveau à cette époque-là.
Et le recrutement était la première promotion de l'école d'Orsay, il y avait déjà la parité, il y avait 10 garçons et 10 filles, et c'est quelque chose qui était très cher à la pensée de Gamzon.
Voilà, et on le retrouve évidemment, bon, après bien plus tard, y compris dans les statuts, où ça fait très très longtemps que dans les statuts des EI, pour les conseils d'administration, on a évidemment des quotas, qui sont des quotas d'ailleurs... que ce soit garçon ou fille, voilà, il faut qu'il y ait une forme d'équilibre en tout cas. Mais ce que vous dites me fait penser à cette dimension qui va ensemble, c'est-à-dire il y a cette dimension homme-femme, garçon-fille, et puis il y a cette dimension qu'on traite et aussi dans l'éclaireur entre les générations, les pères et les fils ou les mères et les filles. Et il y a un article, qui est un très bel article d'Emmanuel Bloch, qui rappelle un très beau midrash qui explique qu'en réalité la vieillesse a été inventée par le patriarche Abraham. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, dit le texte, il n'y avait pas vraiment de différence physique entre le père et le fils. Et puis, ça posait des problèmes à Abraham. Il a demandé à Dieu à ce qu'on fasse une distinction. Et Dieu lui a dit, très bien, on va commencer par toi. Et cette distinction entre homme, père et fils, elle se retrouve dans un autre passage du Talmud, qui se trouve dans le traité Baba Kama, qui dit qu'il y avait des pièces au temps d'Abraham, et que sur une des faces des pièces, il y avait un couple âgé, et que sur l'autre face des pièces, il y avait un autre couple, mais beaucoup plus jeune. Comme si le judaïsme voulait marquer très fortement cette distinction entre les hommes et les femmes, et en même temps cette distinction entre les générations. Et très bizarrement, c'est ce qu'on retrouve dans un livre qui a fait beaucoup parler de lui en 2003, qui s'appelle « Les penchants criminels de l'Europe démocratique » de Jean-Claude Milner, où Jean-Claude Milner essaye, puisque lui n'est pas spécialement religieux, c'est un athée matérialiste, et donc d'un point de vue purement matérialiste, de trouver la raison de la persistance du peuple juif. Et il la trouve dans la persistance de l'étude juive et dans ce qu'il appelle la quadruplicité. Alors qu'est-ce que c'est la quadruplicité pour lui? C'est justement cette volonté farouche du peuple juif de toujours faire la distinction d'une part entre les générations et d'une part entre les gens, entre le masculin et le féminin, ce qui fait une sorte de quadruplet qui se retrouve parfaitement ici dans cette explication du Talmud et qui vise à dire que, comme le disait Karen, c'est une forme d'écosystème, c'est-à-dire que on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, un vieux qui n'a plus de force, quelque part, dans cette société utilitaire, ne sert plus à rien. Non, il fait partie de l'écosystème et il est complètement... ça fait partie de la pièce qui, sans elle, serait complètement démonétisée. Et en même temps, pareil, la dimension masculin-féminin. Et c'est pas parce qu'on essaie de maintenir une distinction entre le masculin et le féminin qu'en revanche, on ne peut pas avoir, comme l'a eu Robert Gamzon dès le début, une vraie volonté d'égalité, d'accession égale complètement au texte et puis à la communauté.
Distinction, mais coprésence.
Exactement.
Cette égalité-là, elle ne masque pas les spécificités de chacun. Et dans les rites de passage qu'on évoquait, il y a aussi des choses qui sont spécifiques. Voilà, le garçon doit mettre les phylactères, les téphilines. Et quand il les met, c'est souvent son grand-père, son oncle, son petit frère, son grand-frère. Tout le monde participe. C'est quelque chose qui est spécifique au garçon. Il n'y a pas de revendication. Ça ne veut pas dire que les filles n'ont pas quand même un rôle à jouer et un rôle essentiel à jouer dans tous les rites de passage et dans la tradition en général. Et c'est vrai qu'aux EI, on a ce vrai souci que les filles soient, comme les garçons, des vecteurs de transmission.
Alors j'ai dit au début que il était important de se souvenir de l'enfant qui est en nous. Comment ce rite de passage, dont les échos, les vagues, vont se faire sentir toute la vie, comment dans ce rite fait-on exister l'âme d'enfant que nous avons évoqué au début de l'émission, et qui se traduit essentiellement par le jeu, la jubilation, la découverte, la rencontre, la confrontation, l'écoute, le respect, l'attention. Comment rester jeune en tant qu'adulte sans tomber dans une attitude régressive ou jeuniste?
Alors c'est une excellente question, parce que si on dit qu'il faut maintenir la distinction entre les jeunes et les vieux, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est vieux, bah du coup, on ne peut plus être jeune? Je dirais que d'une certaine façon, la tradition juive est en subtile opposition avec le fameux proverbe « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Parce que dans ce proverbe-là, on imagine qu'un jeune ne peut pas. Or, on vient de le démontrer tout à l'heure, un jeune, au contraire, il peut, et c'est dans sa jeunesse qu'il va apprendre et qu'il va fonder l'ensemble des racines qui vont l'aider pour son futur. Donc un jeune peut, et un jeune sait déjà. Et puis un vieux, loin de nous l'idée qu'un vieux ne peut pas. Puisqu'un vieux, c'est quelqu'un qui a, on l'a dit, zaken, le mot vieux veut dire zekana. C'est quelqu'un qui a acquis déjà, il a acquis beaucoup de choses.
Zekana chorma.
Zekana chorma, il a acquis la sagesse. Et donc c'est quelqu'un qui peut ensuite la restituer. Donc il peut faire des choses, un vieux. Simplement, il ne pourra pas faire la même chose qu'un jeune pourrait le faire. Et un jeune, lors de sa jeunesse, va être dans une démarche d'apprentissage qui n'est pas la même que celle d'un vieux. Donc, pour répondre directement à votre question, on est encore capable de faire si on est vraiment conscient de notre rôle à l'âge qu'on a.
Il faut rappeler que dans la tradition juive, ce que vous nommez vieux, qu'aujourd'hui on parle d'autres termes, ça commence à 120 ans, donc on a quand même de la marge.
D'ailleurs, les personnages bibliques, et Marc Cohen le rappelle dans l'article qu'il signe, les personnages bibliques ont vécu très très vieux, et Moïse, quand même, sa carrière, entre guillemets, a commencé à 80 ans, donc on a quand même effectivement de la marge. Et puis, il y a cet exemple de ce rabbin qui était très très jeune et qui a été nommé pour être président du Sanhédrin, Rabbi Elazar ben Azaria. Et donc, il est très ennuyé, mais je suis très jeune, je n'ai pas les attributs nécessaires, j'ai pas le look qui va bien. Et donc, il est en train de réfléchir avec sa femme, est-ce que je peux accepter cette responsabilité? En même temps, oui, je sais que j'ai la maturité, les connaissances pour le faire. Et dans la nuit, miraculeusement, une barbe blanche lui pousse et il devient, il a l'allure d'un septuagénaire avec la jeunesse de, et c'est ce qu'il faut souhaiter à chacun des gens qui grandissent, qui vieillissent, c'est de garder dans la tête la jeunesse. place, même si physiquement, Pascal Bruckner, qui est interviewé dans ce numéro de l'Éclaireur, revient sur ce sujet-là. Effectivement, comment rester jeune, même si physiquement on a un corps, et voilà, il faut prendre la mesure de ça. Mais ce qui est important, c'est d'être jeune dans la tête. C'est pas le reste.
Et cette jeunesse, c'est peut-être justement ce que l'on continue à garder dans le questionnement, l'interprétation et l'étude permanente partagée aussi avec les jeunes, comme vous avez dit, dans cette coprésence, dans cette quadruplicité qu'il faut retenir. Merci Karen Alali et merci Jérémy Haddad pour cette conversation absolument passionnante. Je pensais aussi, en vous écoutant, à cette phrase de Confucius qui dit « L'homme a deux vies, la seconde commence quand il s'aperçoit qu'il n'en a qu'une ». Et en tout cas, j'invite les auditeurs à poursuivre ces réflexions sur les âges de la vie en découvrant le dernier numéro de la revue L'Éclaireur, dont je rappelle le titre « Les Chaïm, pour la vie, les âges de la vie ». Merci encore Karen Alali et Jérémy Haddad.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Waknin. À la prise de son aujourd'hui, Julien Douminc. À la réalisation, heureuse tout comme nous de reprendre l'enregistrement des émissions en direct d'Annie Journaud. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.